prendre. Avec donc André Wénin qui vient pour une approche plus directement biblique. Voilà, André Wénin est professeur d'exégèse de l'Ancien Testament et également doyen de la faculté de théologie à l'Université catholique de Louvain. Il est docteur en sciences bibliques de l'Institut biblique pontifical, doctorat qu'il a obtenu en 1988, et secrétaire du RENAB, Réseau de recherche en analyse narrative des textes bibliques, depuis 2008. Et puis les professeurs invités de théologie biblique à l'Université grégorienne à Rome depuis l'an 2000. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont un certain nombre aux éditions Lesius, qui sont disponibles à la librairie pendant les pauses, mais pas en ce moment. Et je lui laisse la parole.
Vous savez que dans la Genèse, il y a un refrain qui vient une dizaine de reprises, « Elle est holodote, voici la généalogie de » ou « voici l'histoire de ». Et ce refrain, à 9 reprises, dans le livre de la Genèse, est suivi du nom d'un père. C'est Noé, sont ses fils, Shem, Terach, le père d'Abraham, Ismaël, Isaac, Ésaü et Jacob. Et ce refrain introduit soit une histoire racontée, soit une liste de noms de fils devenant pères à leur tour, c'est-à-dire une généalogie, à savoir l'histoire quand elle est sans histoire. Il suffit de citer les noms qui s'engendrent les uns les autres. Ce refrain, en fait, met en évidence quelque chose de la nature du livre qui ouvre la Bible. C'est un livre de pères et de fils. Un livre qui parle, entre autres, de la paternité et de la filiation. Il y a sans doute matière à s'interroger à partir de là lorsque l'on parle de la paternité. Et je voudrais vous proposer une traversée du livre de la Genèse qui va tourner essentiellement, parce qu'on ne peut pas tout faire, autour des histoires de deux fils et des rapports avec leur père. C'est Abraham et c'est Judas. Parce que chez Abraham et Judas, la façon d'être père est liée, j'espère que vous pouvoir vous le montrer, à la relation qu'ils ont eue avec leur propre père. Mais avant de commencer ce survol de la Genèse, je voudrais avancer dans une question préliminaire. La première parole de la Genèse, où il est question de père et de mère, et cette sentence dans laquelle, à propos d'Adam et Ève, le narrateur souligne à l'intention du lecteur que l'homme quittera, abandonnera son père et sa mère pour se joindre à sa femme. Chapitre 2, verset 24. Plus loin dans la Torah, le seul précepte du décalogue à être entièrement positif concerne également la relation parent-enfant. Je vous la cite selon la version du Deutéronome au chapitre 5. « Honore ton père et ta mère, comme t'a ordonné Adonai ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et afin qu'il y ait du bien pour toi sur le sol qu'Adonai ton Dieu te donne. » Que signifie cette loi? Les commentateurs ne retiennent en général qu'un sens positif. Ayant partie liée avec Dieu, les pères et mères méritent un respect absolu. En outre, dans la mesure où ils transmettent à leurs enfants les dons de Dieu, à savoir la vie, le sol dont ils hériteront, l'honneur qui leur est dû va au-delà du respect des personnes concrètes. Il inclut la mémoire permanente de ce que la vie est un don reçu à travers les parents et non un droit, attitude essentielle à l'épanouissement authentique de cette vie. Mais le précepte me semble receler un sens second, qui est souvent négligé. Pourtant, le décalogue lui-même, avant de formuler le commandement des pères et mères, met le lecteur sur la piste en évoquant deux autres fois les pères et les fils. La première fois, au chapitre 5 du Deutéronome, je continue à citer le décalogue dans cette version, versets 9 et 10, vous avez les textes sous les yeux si vous le souhaitez, « Honore ton, c'est moi ». Adonai ton Dieu, un Dieu jaloux qui visite la faute des pères sur les fils, sur trois et sur quatre générations pour ceux qui me haïssent. cette sentence enregistre le fait que la faute des pères a des suites chez les fils pour 3 et 4 générations. C'est ce que Dieu vient voir ou visiter, comme dit le texte hébreu. C'est là une donnée d'expérience qui se vérifie aussi bien au plan individuel qu'au plan collectif, à savoir que les choix erronés des pères ou des générations précédentes peuvent pourrir la vie des fils, la leur rendre plus pesante, plus difficile, de même heureusement que les choix judicieux peuvent la leur rendre plus heureuse et plus belle. La deuxième fois que le décalogue évoque la relation entre père et fils, c'est dans le précepte qui précède immédiatement celui des parents, le précepte du sabbat. Et je vous lis, le 7e jour est sabbat pour Adonai ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, toi et ton fils et ta fille, et ton serviteur et ta domestique, et ton bœuf et ton âne, et tout ton bétail, et ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta domestique se reposent comme toi. C'est donc le précepte du sabbat. Il est fait devoir au père d'accorder du repos à son fils et à sa fille, comme aussi d'ailleurs aux serviteurs, à la domestique, aux bêtes de somme et même aux immigrés, et cela pour ne pas agir comme un pharaon domestique, si je peux dire. Mais la portée de ce précepte est précisément de poser une sorte de limite au pouvoir paternel. Et elle n'est pas à réduire à l'aspect matériel ou social, elle est sans doute aussi symbolique. Permettre au fils et à la fille de faire sabbat, c'est leur accorder avec le repos un espace de liberté et de vie que le père ne contrôle pas. C'est même leur reconnaître une forme d'égalité avec le père au regard de Dieu, puisque le jour du sabbat, ils sont comme lui, dit le texte, dans le repos. En ce sens, le précepte du sabbat reconnaît implicitement qu'un père peut abuser de son pouvoir vis-à-vis de ses enfants. C'est pourquoi il lui fait un devoir d'émancipation, si je peux dire, ou d'autonomisation vis-à-vis des enfants. Et en cela, il rejoint la sentence de Genèse 2, 24, qui dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Ce qui peut rejoindre ce que vous avez entendu tout à l'heure à propos des enfants qui ne sont pas pour les pères. Et si donc le décalogue reconnaît entre les lignes, certes, mais de façon assez nette, que le rapport entre père et fils est rarement idéal. Le désir des parents pour leurs enfants, les choix qu'ils font pour eux, ou leur façon d'exercer l'autorité sur eux, peuvent peser parfois lourdement sur les fils, comme le fils devenu avocat pour satisfaire plus ou moins consciemment le désir de son père, ou cette fille restée célibataire pour répondre plus ou moins consciemment à la détresse d'une mère quittée par son mari. Plus globalement, assumer une juste distance et une juste autorité vis-à-vis des fils n'est jamais chose facile, et chacun sait que l'on peut faire mal en cherchant à faire bien. Sur un tel arrière-plan, que devient l'ordre du décalogue à propos des pères et mères ? Ici, il faut préciser que le sens concret du verbe utilisé dans le décalogue, « kibbet », est « rendre lourd », « donner du poids ». Et Daniel Siboni l'a rappelé avec justesse dans un de ses commentaires. Il s'agirait donc non seulement d'honorer père et mère, mais aussi d'alourdir père et mère, de les laisser, chacun pour sa part, porter les poids qui sont les siens, refuser de porter ces poids à leur place pour les en alléger. Et le verbe qui dit en hébreu « alléger »,« killel », signifie aussi « maudire ». Et en Lévitique 21-17 ou encore en Lévitique 29, la loi avertit que celui qui allège, killel, son père et sa mère, se plonge dans la mort. D'ailleurs, n'est-ce pas en quelque sorte honorer père et mère en tant qu'êtres humains que de les estimer capables de se libérer de leur poids ou d'assumer leurs désirs ou leurs erreurs, autrement qu'en les faisant porter par leurs enfants? Est-ce qu'ils ne seront pas authentiquement honorés d'avoir pris le risque de la vie si leur fils ou leur fille emprunte un chemin de liberté, un chemin où cette vie qu'ils ont transmise peut s'épanouir hors des aliénations où elle se trouve parfois enchevêtrée à cause d'eux, même si souvent c'est malgré eux? C'est cette relation complexe, telle qu'elle est brossée en quelque sorte par des textes de loi parlant de père et mère, que je voudrais maintenant illustrer au moyen des figures de la Genèse dont j'ai parlé tout à l'heure. Abraham. À propos de Genèse 1 à 2, où Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père, le Midrash Rabba de la Genèse écrit ceci. Notre père Abraham avait peur. « Je vais partir, disait-il, et par ma faute on profanera le nom du ciel en colportant ceci. Il a abandonné son père à l'heure de la vieillesse et il s'en est allé. » Les Midrash Rabba montrent combien les commentateurs juifs étaient gênés de voir Abraham, appelé par Adonai à quitter son vieux père Terach, âgé de 145 ans. C'est que l'invitation de Dieu est claire, c'est bien la maison de son père qu'Abraham doit laisser. Mais si l'on veut bien comprendre quelque chose à la logique de l'appel de Dieu, il faut peut-être se demander qui est ce père? Quelle relation il a instaurée avec son fils pour que Dieu lui demande de quitter cette maison paternelle? Et sur cette question, dans le récit qui précède l'appel d'Abraham, la fin du chapitre 11, trois indices convergents peuvent alerter le lecteur dans un texte extrêmement succinct. Le premier indice est le nom des deux fils aînés, Abraham et Nahor. Abraham, comme vous le savez, signifie « le père est élevé ». En l'appelant ainsi, Terach montre combien il se sent élevé, glorifié par le fait de devenir père. En ce sens, à ses yeux, le rôle du fils, c'est de grandir son père. Le deuxième fils reçoit de son père le nom Nahor, qui est en fait le nom du père de Terach, de son grand-père paternel, comme si Terach voulait faire de son fils la mémoire vivante de son père. Implicitement donc, il montre à nouveau l'importance, le poids que revêt à ses yeux la figure paternelle. Un deuxième trait convergent avec le premier apparaît en lien avec le troisième et dernier fils, qui s'appelle Haran. À peine le narrateur a-t-il relaté sa naissance qu'il raconte sa mort. Et la seule chose qu'il évoque entre les deux, c'est que, comme son père, Haran engendre un fils et donc devient père lui aussi. Littéralement, Terach fit enfanter Haran, mais Haran fit enfanter Lot et mourut Haran contre la face de son père Terach. Dans ce bref récit, très bref récit, encadré par la figure du père qui vient avant et après, tout se passe comme si, en devenant père à son tour, Haran se dressait contre la face de son père Terach, cet affront se soldant par la mort. N'y aurait-il place pour un seul père dans cette maison? Serait-ce là la grandeur du père revendiquée dans le nom d'Abraham, un pouvoir qu'il vaut mieux pour le fils ne pas défier? Troisième élément, il intervient lorsque Terach décide de quitter la ville de Ur en Chaldée. Le narrateur raconte ceci. « Et Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. » On trouve dans cette phrase pas moins de 7 termes de parenté et 7 marques de dépendance, du génitif si vous voulez, le tout étant parfaitement inutile puisque les relations entre les personnages sont bien connues du lecteur à ce stade. Mais une telle insistance est révélatrice de dépendances multiples entre ces gens sous l'autorité de Terach qui les prend tous, c'est le verbe qui lui est attribué. Et à sa suite, continue le texte au verset 31b, « ils sortirent avec eux de Ur des Chaldéens ». Qui avec qui? Tout le monde avec tout le monde, j'imagine, ce qui prolonge le tableau en suggérant quelque chose de la confusion qui dérive de cet état de fait. Bien sûr, le départ peut révéler le désir de Terach qui, confronté à la mort de son fils Haran, mais aussi à la stérilité de sa belle-fille Sarai, tente d'arracher cette famille à Ur, la fournaise du malheur de ceux qui sont marqués par la mort. Mais ce départ ne change rien à la nature des relations mortifères, des relations dans ce clan où Terach exerce son emprise au point de priver les siens de la faculté de prendre en main leur existence, pourrait-on dire. Ce que le récit suggère ainsi, me semble-t-il, c'est que le père d'Abraham vit sa paternité d'une manière telle que ce qu'il fait pour le bien des siens, en l'occurrence partir de Our, renforce encore sa position de clé de voûte du dispositif mortifère que sa façon d'être père met en place. Ce dispositif, Terrach ne pourrait le désamorcer qu'en trouvant le moyen de se retirer. Mais ce ne sera pas le cas. Au contraire, une fois parti de Our, il arrête son clan à mi-chemin, entre la terre de Canaan et Our, pour l'établir à Haran, un endroit dont le nom rappelle étrangement le nom du fils mort, Haran. La tentative de Terrach d'éloigner les siens d'un lieu de mort vient s'échouer en un autre lieu qui rappelle la mort que provoque sa façon d'être père. C'est que celle-ci ne tient pas au lieu de résidence, mais au type de paternité mis en œuvre par cet homme. Et c'est ici qu'Adonai va intervenir pour opérer une séparation créatrice, les paroles que vous connaissez au début du chapitre 12. Il appelle Abraham à s'en aller loin de la maison de son père. C'est ainsi qu'il pourra voir, dit-il, une descendance, devenir une grande nation, et recevoir un nom, ce nom qu'Adonai lui fera, et également jouir de la bénédiction et de l'épanouissement de la vie que la bénédiction promet. Mais quand il abandonne son père, Abraham ne l'honore-t-il pas, d'une certaine manière? Lorsqu'il coupe les liens de mort où Terrach enferme les siens, n'honore-t-il pas le désir de vie qui, malgré tout, doit avoir présidé à la naissance de fils, puis au fait de les marier, puis à la décision de quitter Our? Et lorsqu'il choisit, sans qu'Adonai le lui demande, d'aller en Canaan, là où son père avait l'intention de se rendre, est-ce qu'Abraham ne reprend pas à son compte le désir de vie et de bien-être qui a poussé son père à quitter Our? Ce départ ne signifie pourtant pas qu'Abraham est au bout de ses peines. Dès le début, par exemple, on le voit reproduire dans ce qu'il fait l'attitude de son père. Je lis, « Il prend Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère. » En réalité, il va découvrir au fil de son histoire que quitter la maison du père ne se réduit pas à une coupure géographique. Cela implique surtout le lent apprentissage d'une autre manière de vivre ses relations et le consentement à la non-maîtrise à l'inverse de son père. Alors, je ne peux pas ici, bien sûr, détailler tout le chemin intérieur d'Abraham. Ça m'entraînerait beaucoup trop loin. Je me contenterai de relever deux moments significatifs de cet itinéraire, tous deux intervenant à l'initiative d'Adonai et liés à la paternité. Le premier moment fort vient au chapitre 17 par le pacte de la circoncision. Connaissez le texte, c'est un texte où Adonai va changer le nom qu'Abraham avait reçu. Avec ce grand nom, effectivement, il le lui allonge d'une lettre en tout cas, avec ce grand nom promis, Dieu, selon les termes mêmes qu'il emploie, donne Abraham à lui-même. Il le détourne d'un passé où son nom le vouait à l'élévation du père et il le destine à son propre devenir de père d'une foule de nations. C'est ce que signifie le nom d'Abraham d'après les dires de Dieu lui-même. Mais avant de devenir ce père d'une foule de nations, il faut qu'Abraham croie une parole et qu'il adhère à une logique d'alliance. Cela requiert de lui l'acceptation d'une perte, d'un manque dont le signe marquera sa chair, c'est la circoncision. Et ce n'est pas un hasard si ce signe s'inscrit précisément sur l'organe qui permet la fécondité de l'union entre homme et femme. Et tout se passe comme si l'homme ne pouvait entrer dans une juste fécondité, une juste paternité, qu'en acceptant qu'un en moins, qu'un manque, marque ce qu'il peut penser avoir en plus, le phallus, symbole du pouvoir masculin. Dans cette ligne de démaîtrise, on comprend que Dieu invite ensuite Abraham à ne pas nommer sa femme Sarai. Sarah, dit-il, est son vrai nom, et il n'est pas affecté de la marque du possessif de première personne. Aussi, personne ne peut dire Sarah sienne, pas même Abraham. C'est ainsi que Dieu ajuste Abraham et Sarah l'un à l'autre pour leur permettre de recevoir la bénédiction et de devenir un couple fécond. Devenir père impliquant l'acceptation d'un manque, d'une perte, d'un manque de contrôle, d'un non moins. Mais une fois donné à lui-même, Abraham, qui va devenir père, se rencontre une autre question. Va-t-il devenir père comme son père, ou prendra-t-il un autre chemin? Et de ce point de vue, deux scènes de la fin de l'histoire d'Abraham, enfin les trois quarts de l'histoire d'Abraham, sont significatives et elles suivent immédiatement la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse. Dans un premier tableau particulièrement poignant, au chapitre 21, Dieu ordonne à Abraham d'accéder à l'exigence de Sarah de renvoyer Ismaël, son premier fils, en compagnie d'Agar, sa mère. Malgré des réticences assez fortes, Abraham obéit, il raccompagne Agar et son fils. Cette mère, du reste, ne retiendra pas non plus son fils à elle, puisqu'elle va lui donner une femme avant de le laisser vivre sa vie de chasseur du désert. Ismaël est ainsi, dans la Genèse, le premier fils à réaliser l'ensemble du programme fondateur relatif aux relations parents-enfants. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vient ensuite le tour d'Isaac, au chapitre 22. Dans une parole qui renvoie Abraham à l'appel initial par lequel Adonai lui enjoignait de quitter son père, Dieu l'invite littéralement à faire monter Isaac pour un holocauste sur une montagne. L'ordre est ambigu. Il peut s'entendre de deux manières, ou bien offrir un sacrifice avec son fils sur la montagne, ou bien offrir son fils en sacrifice. Ce qui, en termes de paternité, peut se traduire dans un dilemme, ou bien garder Isaac en remerciant par le sacrifice Dieu pour ce don, ou bien renoncer à retenir le fils à lui et en faire don à celui qui le lui a donné, ce serait un sacrifice. Autrement dit, être père qui laisse aller son fils ou père qui garde son fils, être père comme Terach ou non. Abraham est donc contraint d'opter, et le narrateur montre avec finesse dans la première partie du texte comment Abraham supporte la tension jusqu'au bout. Là, sur la montagne, en l'absence d'une autre victime, Abraham pose le choix radical consistant à ne pas garder son fils pour lui, à ne pas, comme dit le texte, l'épargner. Le messager d'Adonai interrompt son geste et reconnaît la justesse de son choix. Dès lors, le couteau dans la main du père ne servira plus qu'à trancher le lien par lequel Abraham avait lié son fils et à égorger non pas l'agneau, mais le bélier, animal père, figurant la puissance paternelle, menaçant la vie du fils si elle ne consent pas à une coupure ou à un renoncement. Comme le suggèrent dans le texte les nombreuses reprises du premier appel de Dieu, Abraham a une dernière fois quitté son père en refusant d'être père comme lui, un père qui fait mourir le fils. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'au terme du récit, Isaac, désormais libre, ne descende pas de la montagne avec son père, au verset 19. Car au cœur de ce drame, Abraham a appris qu'un père n'a pas à épargner son fils au sens économique du terme, de le garder pour lui, parce qu'on ne sait jamais pour les vieux jours, pour le garder lié, autrement dit à lui, comme le lui dit le messager. Il n'a pas à étendre la main sur son fils pour lui faire quoi que ce soit. Au contraire, quand il délie ou délivre Isaac, Abraham découvre que le véritable sens de son existence ne réside pas dans la possession du fils, fût-il un don de Dieu, mais dans la relation à celui qui donne, source de bénédiction et de vie débordante. C'est le verset 16 à 18 qui est le serment de Dieu d'accorder à Abraham la bénédiction parce qu'il a accepté de ne pas garder son fils à lui. Et puisque je viens d'évoquer Ismaël et Isaac en transition avec Judas, je vais faire un petit détour par ces deux demi-frères pour évoquer un aspect de la transmission père-fils que la Genèse met en lumière. Et ça me permettra de faire le lien donc avec l'histoire de Judas. Vous avez, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la Genèse, un petit arbre généalogique que j'ai esquissé pour que vous puissiez vous retrouver dans ces questions de père et de fils. Selon le récit biblique, Isaac, dès son sevrage, est privé d'Ismaël, au chapitre 21, lorsqu'Ismaël est renvoyé. Il perd donc son frère aîné. Et cette perte va-t-elle créer un vide en lui? Le texte ne dit pas clairement, mais devenu père de jumeaux, Isaac va préférer l'aîné, Ésaü, chasseur des grands espaces, comme Ismaël est lui-même un chasseur des grands espaces. Ésaü, comme son oncle Ismaël encore, va épouser des étrangères. Puis, pour plaire à Isaac, il épousera une fille d'Ismaël. De son côté, Rebecca, la femme d'Isaac et la mère des jumeaux, va jeter son dévolu sur le cadet. Elle est elle-même une cadette. Sur le cadet Jacob, faisant exactement comme sa belle-mère Sarah, qui préférait aussi le cadet Isaac, comme la grand-mère de son mari. Pardon. Dans une sorte de jalousie maternelle pour le plus jeune, elle agit aussi comme Sarah, en faisant en sorte que le cadet Jacob l'emporte sur l'aîné, comme Isaac l'avait emporté sur Ismaël grâce à sa mère Sarah. Elle le pousse à le priver de la bénédiction paternelle, l'éloigné du père. Et c'est cela qui va engendrer un conflit entre frères, conflit qui mènera rapidement à leur séparation. Une séparation qui a au moins un mérite, celle d'éviter le meurtre. Autrement dit, de reproduire l'histoire de Caïn. Jacob doit donc s'enfuir au loin chez Laban, le frère de sa mère Rebecca. Là, il rencontre Rachel, la fille cadette de Laban, belle femme comme sa tante Rebecca, c'est la même expression dans la Genèse. Invité à demeurer, puis à travailler chez son oncle, Jacob va s'attacher à Rachel, la cadette, plutôt qu'à Léa, l'aînée. Mais son faible pour la plus jeune, comme vous le savez, ne va pas lui réussir. Rusé comme sa sœur, Laban, la sœur c'est le frère de Rebecca, Laban trompe Jacob en faveur de sa fille Léa, l'aînée, exactement comme Rebecca avait berné son mari en faveur de Jacob, son fils préféré. Ainsi, Jacob tombe dans un nouveau conflit avec son oncle cette fois, tandis que ces deux femmes, dont l'une est haïe mais féconde et l'autre aimée mais stérile, se rejouent à leur façon le conflit qui avait opposé la grand-mère Sarah et sa rivale Agar. C'est dans ce contexte que vont naître les fils de Jacob dont je vais parler maintenant, fils qui, à leur tour, vont vivre des relations de jalousie et de haine parce que leur père Jacob reporte sur les fils de Rachel la préférence qu'ils manifestaient déjà pour Rachel, leur mère qui est morte entre-temps. Ce rapide parcours laisse entrevoir que d'une génération à l'autre, les problèmes relationnels se répètent, se déplacent, s'amplifient. Or, le décalogue le suggère, la faute du père touche les fils sur 3 et 4 générations. Où se cache donc cette faute, sinon en début de chaîne? Il faut donc la chercher dans les circonstances de la naissance du premier fils, Ismaël. Premier fils d'Abraham, un moment crucial qui va déterminer le devenir non seulement d'Ismaël, mais aussi d'Isaac, et ainsi de suite. Alors, rappelons-nous la scène du chapitre 16. Poussée par son désir d'enfant, Sarah, qui s'appelle encore Sarai à ce moment-là, jette son mari dans le lit de la servante Agar. Sans maudire, Abraham se laisse embarquer ainsi dans une relation triangulaire. Au verset 3 du chapitre 16, on dit bien que Sarah organise les noces entre Abraham et Agar. Abraham se laisse donc embarquer dans une relation triangulaire qui va évidemment devenir rapidement épineuse. À mes yeux, dans cette situation-là, les six premiers versets du chapitre 16, Abraham commet 3 fautes. Je ne dis pas 3 péchés, je ne qualifie pas moralement, mais relationnellement, il y a 3 choses qui ne sont pas adéquates. La première, c'est vis-à-vis de Dieu. Il accepte sans plus la solution de la mère porteuse que Sarai lui propose, une solution dont elle exclut Adonai alors qu'elle dit que la source du problème, c'est Adonai. Adonai m'a empêché d'enfanter, va je te prie vers ma domestique. Alors que logiquement, si Adonai fait partie du problème, c'est à lui qu'on devrait s'adresser en priorité pour la solution. Abraham va accepter cette solution, manquant ainsi de confiance en la promesse que Dieu a pourtant scellée dans une alliance au chapitre précédent, au chapitre 15. Première erreur. Deuxième erreur, il préfère céder devant Sarai et adopter une solution qui lui permet de ne plus devoir attendre le fils promis, et de ne pas avoir à s'affronter à son épouse, d'une pierre 2 coups. C'est là la deuxième faute d'Abraham, faute relationnelle vis-à-vis de Sarai, dans la mesure où il ne résiste pas à son envie de devenir femme en prenant l'enfant d'une autre, C'est exactement ce qu'est Dieu au verset 2, dans une attitude de mainmise et de convoitise. Il ne s'oppose pas à une solution qui est boiteuse pour la femme elle-même. On ne devient pas femme en prenant l'enfant d'une autre. Enfin, troisième faute, Abraham faute aussi envers Agar. Il la livre au bon vouloir de Sarai à la fin de la scène, sans s'interposer pour la défendre, alors pourtant qu'elle est devenue sa femme et qu'elle porte son enfant. En outre, il va laisser Agar assumer seule les conséquences de sa propre mollesse vis-à-vis de Sarai. Avec le retour d'Agar, les choses semblent s'apaiser. Mais lorsque Sarai deviendra mère à son tour, le problème va ressurgir avec force dans la jalousie de Sarah, par rapport à l'enfant de la servante. Et Abraham devra renvoyer Ismaël et sa mère, privant ainsi Isaac de son frère, et c'est cela qui va engendrer la réaction en chaîne que j'ai évoquée tout à l'heure, difficulté qui, à partir de l'exclusion d'Ismaël, affecteront les fils, précisément sur 3 et 4 générations, comme dit le Décalogue. Au terme de la chaîne, à la 4e génération, on trouve les fils de Jacob, Joseph et ses frères. Mais aussi Judas. Et c'est sur la figure de Judas que je voudrais m'arrêter. Son parcours de fils à Judas commence bien mal. C'est la première étape de 4 étapes que je vais décrire successivement. Elle commence au fond dans le groupe des frères qui haïssent Joseph, le préféré du père, mais aussi le père lui-même qui préfère leur petit frère. Alors, l'expression est ambiguë. Il se mire à le haïr, mais on ne sait pas si c'est Joseph ou si c'est Jacob. C'est d'ailleurs Judas lui-même qui va proposer de vendre Joseph comme esclave à des marchands vers la fin du chapitre 37. Avec les autres, une fois Joseph disparu, il imagine punir Jacob en quelque sorte en lui envoyant la tunique ensanglantée de Joseph avec quelques mots insidieux destinés à lui faire penser que Joseph, son préféré, a sans doute connu une mort atroce, déchirée par des bêtes. Puis avec les autres, une fois que le père a reçu la triste nouvelle, il cherche à consoler le père, espérant probablement recoller les morceaux à présent que le gêneur a disparu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette histoire, Judas n'honore guère son père. Mais la haine de Judas n'est pas vraiment une haine sui generis, il faut le souligner. Parce que si Judas et les autres frères s'acharnent contre Joseph, avant de se retourner et de faire du mal à leur père Jacob, c'est parce que Jacob s'est consolé de la mort de son aimée Rachel en reportant son affection privilégiée au fils de Rachel, Joseph, avant de se retourner, en réservant son affection à Joseph, et puis ensuite ce sera Benjamin. Jacob ainsi, et c'est important, impose son fardeau à ses fils. Ce sont eux qui doivent porter indirectement le poids du deuil que Jacob est incapable de faire autrement qu'en commettant une injustice à leur égard en préférant Joseph à ses autres frères. Mais faute d'alourdir le père en lui rendant ce poids, fais ton deuil toi-même, ne nous impose pas à nous une souffrance parce que toi tu n'arrives pas à faire tes comptes avec ta propre souffrance. Faute d'alourdir le père en lui rendant ce poids, les fils ne peuvent pas non plus honorer le père. Deuxième étape. Chapitre 38. Le narrateur va nous raconter l'histoire de Judas et Tamar. Là, le lecteur voit comment est père un fils qui n'honore pas son père. Ici, je vais vous lire le texte parce qu'il est moins connu. Souvent, on ne le lit pas d'ailleurs parce qu'on n'a pas l'impression que c'est important. En ce temps-là, Judas descendit d'auprès de ses frères. Donc, en ce temps-là, c'est après la vente de Joseph et après avoir annoncé au père que Joseph était mort et avoir tenté en vain une conciliation familiale. Là, Judas vit la fille d'un homme cananéen, Chouar de son nom. Il la prit et il vint vers elle. Et elle fut enceinte et enfanta un fils et appela son nom Er. Elle fut encore enceinte et enfanta un fils et elle appela son nom Onan. Elle continua encore et enfanta un fils et elle appela son nom Shéla. Et Judas prit une femme pour Er, son aîné, Tamar de son nom. Et Er, l'aîné de Judas, fut mal aux yeux d'Adonai et Adonai le fit mourir. Et Judas dit à Onan, « Viens vers la femme de ton frère pour accomplir ton devoir de beau-frère, la loi du Lévira, et faire lever une semence pour ton frère. Mais Onan sut que la semence ne serait pas pour lui, et s'il venait vers la femme de son frère, il gâchait à terre pour ne pas donner semence à son frère. Ce qu'il fit fut mal ou mauvais aux yeux d'Adonaï, et il le fit mourir lui aussi. Et Judas dit à Tamar, sa bru, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce qu'ait grandi Shéla mon fils, car il se disait, de peur qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla. Judas donc s'éloigne du clan paternel où la conspiration du silence, tous les fils savent que ce que Joseph est devenu le père ne le sait pas, le croit mort. Hein, la conspiration du silence doit être pesante. Judas s'en éloigne, il se marie, il a trois fils. Et sa façon d'être père est en contre-dépendance radicale de ce qu'il a vécu chez son propre père. Il a quitté Jacob, qui pour son propre malheur a perdu tout contrôle sur ses fils. Et il n'entend donc pas répéter cette erreur en cherchant précisément à contrôler ses fils. On le voit ainsi prendre lui-même une femme pour Er, son aîné. C'est dans la Genèse le seul père qui agit ainsi. Mais Er meurt. Alors Judas contraint Onan, son deuxième fils, à se plier à la coutume du Lévirat et à susciter une descendance à son frère mort en épousant la veuve Tamar. Mais Onan meurt aussi. Alors Judas oublie la loi du Lévirat qu'il avait voulu pourtant que son premier fils applique, et croyant à tort que c'est Tamar qui est le responsable de la mort de ses fils, il éloigne Shéla de Tamar avec un beau mensonge, en lui laissant croire que dès que Shéla sera grand, il pourra aller vers elle comme le veut la loi. Tamar très vite comprendra que ce n'est pas le cas. Dans ce bref récit, on voit Judas chercher à contrôler ce qui se passe dans sa maison sans se poser de questions sur les décès successifs qui la frappent. Il a son interprétation, c'est la bonne, c'est Tamar qui fait mourir les enfants. Pourtant, le lecteur comprend que ces décès sont le signe que l'essentiel échappe à Judas, comme si son désir de mainmise l'aveuglait. Alors je reprends. Chaperonné comme il l'est par son père, Er, l'aîné, est, dit le texte, mal aux yeux d'Adonaï. Non pas mauvais, mais il est mal. Et le narrateur prend la peine de préciser que c'est en tant qu'aîné de Judas qu'il est mal. On dirait aujourd'hui mal embarqué, mal positionné dans la vie, lui qui va jusqu'à laisser son père lui imposer sa femme. Aussi Adonaï le fait mourir. Autrement dit, ce n'est pas la femme qui l'a fait mourir. Quant à Onan, contraint par la volonté paternelle, vous l'avez entendu, il refuse en cachette d'obéir à son père et d'engendrer un fils qui porterait le nom de son frère. Aussi, Dieu le fait mourir à son tour. Nous savons donc que ce n'est pas la femme qui les fait mourir. Alors, sans même se demander si lui-même, dans sa façon d'être père, n'est pas pour quelque chose à la mort de ses fils, Judas pense que c'est Tamar la coupable, il doit donc l'écarter, mais sans perdre la face, en lui disant qu'on arrangera ça plus tard. Ainsi agit le père Judas. Il ne cesse de disposer de ses fils et de sa belle-fille en fonction de ses désirs, de ses projets ou de ses peurs. Mais croyant tout contrôler, il ne voit pas que l'essentiel lui échappe. Son désir de vie, qui est visible lorsqu'il se marie, lorsqu'il engendre des fils, lorsqu'il veut que ceci ait une descendance, son désir de vie vient comme s'ensabler dans sa peur de la mort. C'est cette peur, en effet, qui le pousse à enfreindre la loi du Lévirat, puis à mentir effrontément pour cacher son angoisse devant Tamar. En voulant éviter de faire comme son père, il fait bien pis. Il empêche indirectement ses deux aînés de vivre, il prive le troisième de descendance et il condamne Tamar à un veuvage reclus et honteux. Mais c'est sans compter sur la soif de vie qui anime cette femme et qui la pousse à prendre le risque de la vie. En réalité, elle n'accepte pas de souffrir de la mort, de la faute de son beau-père. Aussi va-t-elle s'arranger pour lui rendre le poids indu qu'il est en train de lui imposer. Je résume rapidement les suites de l'histoire. Tamar voit que Shéla a grandi et que Judas ne l'a pas donné à Shéla, qui pourtant est devenue adulte. Alors elle se déguise et se poste au bord de la route où elle sait que son beau-père doit passer. Veuve depuis peu, Judas la prend pour une prostituée, il l'approche, il lui promet un chevreau pour prix de la passe, il laisse en gage son bâton, son cordon et son seau. La chose faite, Tamar disparaît dans la nature avec les gages qui permettront d'identifier le père de l'enfant qu'elle porte. Judas la fait chercher pour la payer et récupérer ses gages, peine perdue. Alors, il se résigne à la perte des gages, ne voulant pas se ridiculiser, il le dit clairement. Mais 3 mois plus tard, la grossesse se voit. Tamar est dénoncée à Judas, qui l'envoie sans hésiter au bûcher, sans doute trop content de se débarrasser de cette femme gênante. C'est alors que Tamar lui fait porter les gages, l'invitant à reconnaître qui est le père de l'enfant qu'elle porte. Et devant l'évidence, Judas s'incline, c'est lui, le coupable, car il n'a pas donné Tamar à Shéla. Il dit « Elle est plus juste que moi, car de fait, je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla, et il n'a plus continué à la connaître. » Elle n'a donc fait, Tamar, que chercher son dû, et elle l'a obtenu. Mais elle l'a fait en exposant sa propre vie, dans l'espoir que la mort imposée par Judas n'aurait pas le dernier mot. Ainsi, Judas accepte de reconnaître sa faute. Il accueille la leçon que Tamar lui donne. La vie peut l'emporter, à condition que l'on sorte du mensonge et de ce qui, ici, lui donne force, à savoir l'attachement à sa propre image. Judas consent donc à la fin à tomber le masque de l'homme, du père, irréprochable et sûr de lui. Il entre dans sa vérité d'homme qui a échoué et qui, pour ne pas perdre la face, a tenté de camoufler son échec, quoi qu'il en soit, de son fils Shéla, de sa belle-fille et des petits-fils qui l'empêchent de naître. Mais en acceptant la leçon de Tamar, Judas quitte son père et sa mère et leur manière d'être, désir de mainmise qui était celui de Jacob, de Léa, désir de mainmise, convoitise, injustice envers l'autre et pour couvrir le tout, la dissimulation, le mensonge et la ruse. En même temps qu'il quitte son père et sa mère, qu'il rompt avec leur manière d'agir, Judas honore ses parents qui ont engendré un fils capable de se laisser faire la leçon par une belle-fille et de quitter leur manière d'être mortifère par respect pour la vie qu'il a reçue d'eux et qu'il veut transmettre. 3e étape, fort de cette expérience, Judas revient dans le récit au moment où la famine fait rage en Canaan et où la mort menace toute la famille, y compris celle de Jacob. Celui-ci a envoyé ses fils en Égypte, je passe rapidement sur le premier voyage. Là, ils ont retrouvé Joseph, qu'ils n'ont pas reconnu. Après l'avoir rudoyé, Joseph les a renvoyés en retenant l'un d'entre eux comme otage, Siméon. Il exige de voir Benjamin, l'autre fils de Rachel. Car les frères lui ont dit que Jacob l'a gardé auprès de lui, laissant entendre qu'il a reporté sur lui l'affection qu'il avait avant pour Joseph. Arrivés chez leur père, de retour d'Égypte, les frères réclament de pouvoir partir avec leur jeune frère pour aller délivrer Siméon retenu en otage. Mais le père refuse catégoriquement de laisser aller son fils, comme il dit, de peur qu'il lui arrive un malheur. Si Benjamin venait à disparaître, dit-il, il en mourrait. Voilà une situation que Judas doit reconnaître pour l'avoir vécue. Lui aussi a perdu 2 fils, et lorsqu'il s'est agi de donner le plus jeune à Tamar, il a refusé de le laisser aller, craignant de le voir mourir. Même chose ici, il a perdu 2 fils, Joseph et Siméon, on lui en demande 1/3, il ne veut pas. Mais les vivres, une fois épuisés, Jacob est bien obligé de renvoyer ses fils chercher du grain en Égypte. Et Judas alors intervient fermement et même clairement. Vous avez le texte, je vous le lis rapidement. « Lorsqu'ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient fait venir d'Égypte, leur père leur dit « Retournez, achetez pour nous un peu à manger. » Et Judas lui dit « L'homme, l'Égyptien, donc Joseph, qu'ils n'ont pas reconnu, a attesté contre nous en disant « Vous ne verrez pas ma face sans votre frère avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous acheterons à manger. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas, car l'homme nous a dit « Vous ne verrez pas ma face sans votre frère avec vous. » Et après quelques tergiversations avec les autres, Judas dit à Israël, son père, « Envoie le garçon avec moi, que nous puissions nous lever et aller, pour que nous vivions et ne mourions pas, et nous, et toi, et nos rejetons. Moi, je me fais son gage, de ma main tu le chercheras, si je ne le fais pas venir vers toi, que je ne le place pas à ta face devant toi, j'aurai fauté pour toi tous les jours. » Judas donc rétorque clairement les « Étant donné, dit-il, les exigences de l'Égyptien, ils ne descendront que si Jacob laisse aller leur frère. » Il dit « Mon fils, il dit notre frère, avec eux. Sinon, le voyage, dit-il, sera inutile. et avec des mots tranchants, clairs, mais sans agressivité, Judas met son père devant une alternative et le contraint à un choix que le père seul peut poser. Il reste même assez discret parce que quand il évoque cette alternative, il ne va pas jusqu'où il pourrait aller. Il pourrait très bien dire ceci: si en père confiant, tu laisses venir notre frère Benjamin, nous aurons de la nourriture et tous vivront. Mais si en père possessif, tu le gardes pour toi, il n'y aura de pain pour personne, tous mourront, y compris les femmes et les enfants. On reconnaît au passage la leçon apprise de Tamar. Tenter de retenir la vie par peur de la mort, c'est la condamner inéluctablement. Autrement dit, la vie ou la mort, dit Judas à son père, la vie ou la mort de tous dépendent de toi. Vas-tu être un père qui fait vivre ou un père qui, au contraire, fait mourir ? Ces paroles de Judas honorent le père en l'alourdissant avec justesse. D'une part, en effet, elles mettent clairement Jacob devant ses responsabilités de père, si pénibles soient-elles. Et d'autre part, en les prononçant, Judas croit son père capable de ne pas faire porter à tous les conséquences de son deuil qui détermine son attachement à Benjamin et de son contentieux avec ses autres fils dont il se méfie depuis la mort de le départ de Joseph. Autrement dit, Judas honore son père en lui enseignant avec respect la voie de la vraie paternité. Car un père digne de ce nom n'étouffe pas un de ses fils en le tenant captif de ses angoisses ou de son deuil, comme Jacob le fait avec Benjamin. Un père fait confiance à la parole de ses fils et à leur capacité de fraternité, et en tout cas, s'ils sont montrés indignes de cette confiance, il ne les enferme pas irrémédiablement dans leurs erreurs passées, il leur rend une chance. Enfin, un père est soucieux de la vie de chacun, même quand pour cela, il doit prendre le risque de laisser ses fils aller leur propre chemin. Bref, Judas honore son père en s'adressant à lui d'adulte à adulte, distant mais proche à la fois, puisqu'il lui indique exactement où se trouve sa responsabilité. Cela dit, Judas ne se dérobe pas devant sa propre responsabilité, celle d'être frère. Et il s'engage à ramener son frère en se chargeant du poids qui lui est propre, vivre la fraternité avec le fils de Rachel. Quatrième étape, au terme de la deuxième visite en Égypte, la dernière scène de cette visite, Joseph constate que les frères ne l'ont toujours pas reconnu malgré un certain nombre de signes qu'il leur a envoyés. Il met alors en place, Joseph, un stratagème destiné à tester leur capacité de fraternité vis-à-vis des fils de Rachel. En les renvoyant, souvenez-vous de l'histoire, il cache sa coupe dans le sac de Benjamin pour pouvoir l'accuser et le garder comme esclave, en laissant les autres rentrer en paix, dit-il, chez leur père. Que vont-ils faire lorsque va se présenter cette occasion rêvée de se défaire à nouveau du fils préféré de Jacob, l'autre fils de Rachel? Effectivement, le piège fonctionne. Benjamin est pris la main dans le sac, enfin si on peut dire, et condamné à rester esclave en Égypte. Mais sans hésitation, les frères, Judas en tête, se font solidaires de lui. C'est le début du chapitre 44. Et revenu devant Joseph, Judas, qui s'est engagé vis-à-vis de son père, assume sa responsabilité. Il prononce un long plaidoyer où on le voit honorer son père de plusieurs façons. Alors le plaidoyer, je l'ai résumé, enfin j'ai pris des extraits parce qu'il est très long. C'est le plus long discours de la Genèse. Et Judas approcha vers Joseph et il dit, en fait je l'ai résumé en m'en tenant à ce que Judas dit de son père. « Nous avons un vieux père et son enfant de vieillesse est petit. Son frère est mort. » Et il est resté, lui, à lui seul, de sa mère, et son père l'aime. Un peu plus loin, le garçon ne peut pas abandonner son père. S'il abandonne son père, il mourra, le garçon étant Benjamin. Un peu plus loin, et ton serviteur, mon père, nous a dit, vous, vous savez que c'est deux fils que ma femme a enfantés pour moi. L'un est sorti d'avec moi, et j'ai dit sûrement, il était déchiqueté, c'est Joseph, je ne l'ai pas revu jusqu'ici. Si vous prenez aussi celui-ci, Benjamin, de près de moi, et qu'un malheur le rencontre, vous ferez descendre ma tête chenue en malheur au Sheol. Et un peu plus loin, Judas reprend, son âme est tellement attachée à son âme, donc l'âme de Jacob est tellement attachée à l'âme de Benjamin, que quand il verra que le garçon n'est pas là, il mourra, et tes serviteurs feront descendre la tête chenue de ton serviteur, notre père, en affliction au Sheol. » Et il termine en disant « Et maintenant que ton serviteur, c'est-à-dire lui-même, Judas, reste, je te prie, à la place du garçon de Benjamin, comme esclave pour mon Seigneur, et que le garçon monte avec ses frères, car comment monterai-je vers mon père si le garçon n'est pas avec moi ? Je ne veux pas voir le malheur qui trouvera mon père. » D'abord, et le trait est extrêmement appuyé dans le texte, Judas montre qu'il accepte son père tel qu'il est. Est-ce qu'il n'a pas appris à ses propres dépens, avec ses propres fils, qu'un père parfait, ça n'existe pas ? Plusieurs fois, il évoque dans son discours comme une chose normale la préférence de Jacob pour les fils de Rachel, et il va même jusqu'à faire dire à Jacob « Vous, vous savez que ma femme n'a donné que deux fils. » On voit ainsi que Judas accepte ce qui, au début, avait enflammé sa haine et celle de ses frères, ce qui les avait poussés à laisser libre cours à leur violence contre Joseph et contre Jacob. En cessant de désirer que son père soit tel qu'il le souhaitait, et en acceptant le père réel, Judas l'honore en lui reconnaissant tout son poids d'humanité, et cela, même si ce n'est pas simple à vivre pour les autres membres de la famille. En même temps, Judas se montre plein d'une sincère affection pour le vieil homme qu'il ne veut absolument pas accabler davantage. Il a pu voir combien Jacob tient à Benjamin et il sait personnellement ce que signifie perdre deux fils. Il peut imaginer, à cause de son expérience, le déchirement qu'il imposera à son père s'il rentre sans son frère. C'est ainsi qu'à la fin de son plaidoyer, il laisse parler son cœur de fils. « Comment monterai-je vers mon père alors que le garçon n'est pas avec moi ? Je ne veux pas voir le malheur qui frappera mon père. » C'est pour cela que, fidèle à l'engagement qu'il a pris, il propose de payer de sa personne et de rester esclave en Égypte à la place de Benjamin. Plutôt que de priver son père de son fils préféré, et on insiste là-dessus, il s'offre à subir le sort qu'il avait imaginé pour Joseph, être esclave en Égypte. On mesure ici le retournement de Judas. Juste avant sa mort, Jacob rendra d'ailleurs un hommage vibrant à ce fils, qui plus que tout autre l'a honoré dans le sens de alourdi et respecté. Annonçant à ses fils ce qui leur arrivera dans la suite des jours, c'est à Judas qu'il promet l'autorité. À sa naissance, sa mère l'avait appelé Yehuda. Elle célébrait ainsi, en louant Adonai, sa reconnaissance jalouse de voir naître son quatrième fils alors que sa rivale Rachel restait stérile. Sur son lit de mort, Jacob reprend le nom de son fils et lui donne un sens nouveau pour s'être montré capable, dit-il, de revenir du carnage, donc de se détourner de la violence, de faire taire cette violence. Judas sera au centre de la louange de ses frères. Est-ce qu'il est possible de conclure un tel parcours ? La Genèse, je vous le disais en commençant, se donne comme un livre d'engendrement, un livre de père et de fils. Elle évoque leur destin inévitablement entrelacé, mais aussi un éloignement nécessaire pour que le père accomplisse sa paternité au moment même où le fils devient libre de lui. L'homme quittera son père et sa mère. Et si dès la fin du chapitre 2, dès la naissance de l'homme et de la femme, si l'on peut dire, le narrateur prend la peine de souligner cette loi, c'est qu'il y a là un des enjeux essentiels de toute l'histoire qu'il s'apprête à raconter dans le livre de la Genèse. C'est certainement là un des points capitaux, non seulement de l'histoire que raconte la Genèse, mais aussi du message qu'elle porte, si du moins on peut appeler ça un message. Car l'essentiel, au fond, je pense, n'est pas un message qu'il s'agirait de transmettre au lecteur. Un récit ne transmet pas de message en tant que tel, autrement c'est un très mauvais récit. Le récit ouvre des portes, le récit ouvre des horizons où réfléchir. L'essentiel est moins un message qu'il s'agirait de transmettre au lecteur que d'offrir des outils à travers lesquels un récit qui se présente comme un miroir, qui réfléchit l'existence de tout être humain, pour donner à chacun la possibilité de s'y réfléchir. Car ce récit est suffisamment proche de l'existence que nous connaissons pour refléter le réel des humains. Mais il est aussi suffisamment condensé et épuré pour rendre ce réel lisible, Or, justement, la réalité humaine est souvent difficilement lisible à cause du voile des apparences, à cause de la complexité de la vie. Le récit épure en quelque sorte l'expérience pour la rendre lisible, balayant d'un seul regard quatre générations de pères et de fils dans une narration qui est à la fois bouclée et ouverte. La jeunesse permet au lecteur attentif de repérer certaines constantes des relations familiales avec leurs variations subtiles, leurs déplacements inattendus. Il donne ainsi d'observer de près les maladies de la paternité et de la filiation, mais aussi d'explorer les voies de leur guérison. Il permet de déceler les pièges et les chances de cette relation singulière entre père et fils, relation à la fois impossible et nécessaire, riche et difficile, forte et délicate, une relation qui se promène, dangereusement parfois, sur la ligne de crête qui sépare et unit la vie et la mort. Je vous remercie de votre attention.